Radio Campus Lille, il est 6h.
Le collectif Kif Kif lutte contre les discriminations depuis 2013. Il accompagne les victimes, qu'il s'agisse de discriminations liées à l'origine, à l'appartenance ethnique ou religieuse, réelle ou supposée, et d'autres formes de préjugés. Le collectif Kif Kif intervient sur la métropole lilloise. Il a organisé une conférence gesticulée, faut que je vous raconte, au théâtre Pierre de Roubaix. Rencontre avec Awa, conférencière gesticulée.
Je suis la fille d'un papa qui est mauritanien et une maman qui est sénégalaise, qui sont arrivés à la fin des années 70. Et j'ai grandi en France. Je suis née à Versailles, près du château. J'ai fait toute ma scolarité dans les Yvelines. Et plus jeune, j'ai connu des difficultés dans le sens où ma mère a traversé la pauvreté, a traversé l'aboutissement d'un rêve en devenant modéliste styliste à son arrivée. Donc une vie de débrouille. Et puis en grandissant, je me suis dit que c'était intéressant de peut-être travailler dans le social, aider les autres. Depuis que je suis petite, c'était un petit peu le leitmotiv. Donc je suis devenue assistante sociale, mais ce boulot m'a remis en question sur beaucoup de choses. Et c'est l'arrivée de mon fils en situation de polyhandicap qui m'a permis de trouver ma voie autrement en essayant de créer des solutions qui n'existaient pas.
Pourquoi cette conférence gesticulée ?
Cette conférence gesticulée, pour moi, c'était vraiment mettre des sous-titres sur mon parcours de vie. En fait, en arrivant à l'âge adulte, maintenant j'ai 45 ans, je me rendais compte qu'il y avait des choses que je comprenais pas, et dans mon fonctionnement et dans mon histoire familiale, avec des choses qui étaient encore difficiles, des fois douloureuses, mais également essayer de comprendre quelle était cette force parfois qui m'habitait et cette résilience. Et pour faire ça, au début, je m'étais dit pourquoi pas reprendre des études, devenir ingénieur social, un peu de la sociologie, pour aller chercher peut-être des réponses de ce côté-là. Et j'ai entendu parler des conférences gesticulées, je suis partie en voir une, et là j'ai eu une révélation en me disant que c'était un outil de l'éducation populaire qui pouvait me convenir. Donc je suis allée en formation d'octobre 2023 à mars 2024 avec une structure d'ici qui s'appelle l'Étincelle, qui nous a formés. On a monté cette conférence, on avait rendez-vous une fois par mois pendant le week-end, et à la fin, l'air de rien, j'avais construit une conférence gesticulée qui mettait en lien mon parcours de vie, mais également des apports théoriques. J'ai beaucoup lu, j'ai écouté des podcasts, des interviews, et j'en sors vraiment riche et apaisée.
Est-ce que ça vous a grandi ?
Ça m'a vraiment grandi. Ça m'a permis aussi de me dire que dans beaucoup de choses de mon parcours, je n'étais pas responsable. Ça m'a déculpabilisée de me dire que de cette histoire singulière, elle fait des ricochets avec des histoires que plein de gens vivent. Quand je parle de la pauvreté, des stratégies que ma mère a mises en place, souvent ça parle au public qui vient me voir. Quand je parle d'avoir un enfant en situation de handicap et la difficulté que ça peut être pour les parents qui sont concernés, ça leur parle. Quand je parle de la création d'entreprise et de toutes les galères qu'on peut rencontrer en tant que femme non blanche, pareil, ça parle aux gens et certains ont vécu des situations identiques à la mienne. Donc, je me dis que le fait d'avoir des parcours qui se ressemblent, qui sont transversaux, permet aussi d'être plus fort, surtout quand on arrive à trouver des solutions, qu'on arrive à les transcender, mais qu'on arrive aussi à dénoncer et à dire les choses pour les faire exister, comme disait Paul Éluard.
Si on a besoin d'informations sur vous, sur votre parcours ?
Alors, j'ai un compte Insta, Awa Camara, auteur, et aussi dans le cadre de l'association que je préside, où on accompagne des parents d'enfants en situation de handicap, qui s'appelle Second Souffle. Vous pouvez suivre l'actualité de cette asso sur secondsouffle78.fr.
Marie-Chantal et Aline du collectif Kif Kif.
Nous sommes basés à Lille. Ça fait depuis à peu près 2012 que le collectif a été créé. Il est porté par l'association Iris Formation. Alors l'idée du collectif au départ, c'était de venir en aide à toutes les personnes qui se disent victimes de discrimination dans tous les domaines les plus importants qui sont l'emploi, le logement, la santé, l'éducation, les loisirs. Et avec le temps, par la force des choses, on a été très, très sollicité par les personnes qui subissaient des violences de type ethno-racial, des micro-agressions, comme l'a évoqué Awa dans son spectacle. Et donc, aujourd'hui, on se spécialise de plus en plus à aider les personnes qui sont victimes de discrimination ethno-raciale, que ce soit dans le domaine du logement, de l'emploi, de la santé, des loisirs.
Vous les accompagnez, c'est bien ça ?
Nous accompagnons, on essaye de proposer un accompagnement individuel aux personnes, hein, parce que voilà, se mettre en collectif, c'est un peu compliqué. Et on propose aussi des temps collectifs où les personnes peuvent échanger sur comment elles ont essayé de s'en sortir face à des injustices, des inégalités, des agressions de type ethno-racial. Et ce qu'on propose aussi, c'est des événements comme aujourd'hui, le spectacle d'Awa, nous semblait vraiment hyper important à diffuser sur Roubaix. Comme nous le savons, beaucoup de gens nous rapportent qu'ils sont victimes de discrimination ethno-raciale. Étant donné que Awa, dans son spectacle, évoque divers thèmes tels que l'immigration, l'identité, le handicap et le statut de aidant, ça nous semblait tout à fait normal qu'elle soit diffusée au Théâtre Pierre de Roubaix.
Comment est-ce que vous avez participé à ce projet ?
Alors, moi, j'étais porteur du projet. Je voulais qu'il soit diffusé à Roubaix. Donc, moi, j'ai reçu le contenu du spectacle gesticulé. Et puis, je trouvais important déjà, moi, de le découvrir, mais aussi les femmes. Je suis maman. Donc, je me retrouve dans toutes les dynamiques des personnages, autant la maman que la fille, mais aussi la maman qui a un enfant aujourd'hui. Et puis, ici, de l'immigration. Donc, je pense que c'est un spectacle qui parle à beaucoup de personnes.
Vous avez défendu ce projet en commission. Racontez-nous un peu.
Alors, on était donc quatre. Donc, en fait, on était en face d'une commission et il fallait le défendre, donc se présenter. Donc, moi, j'ai parlé justement que c'est important qu'un tel projet soit mis en avant. Ensuite, les autres se sont aussi présentés. On avait des habitants et puis le responsable qui était là aussi. Donc, voilà. Et on nous a dit que vous allez nous donner un retour sur quelques jours. Mais en tout cas, on l'a défendu du mieux qu'on pouvait.
C'était dans le cadre de quel dispositif ?
C'était la participation initiative citoyenne. Donc, on a eu une subvention, une aide financière pour pouvoir rémunérer la conférencière. Et ça, vraiment, on remercie grandement la ville de Roubaix, le quartier Est particulièrement. On sait aussi que la région participe à cette enveloppe. Sans cette aide, je pense qu'on ne pourrait pas diffuser des spectacles de telle qualité parce que, évidemment, ce n'est pas donné. Et comme ça nous tient à cœur de rémunérer ces artistes, il faut absolument trouver un minimum de fonds pour les rémunérer. Donc,
qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée ?
Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle soirée. J'ai trouvé que déjà, le public était assez varié. Et je pense que pour avoir mobilisé avec les bénévoles toutes les personnes qui sont présentes, je les ai soignées au téléphone. Je pense que tout le monde s'est retrouvé. Tout le monde s'est retrouvé, comme le disait Aline, dans chacun des personnages. Elle a parlé du rôle de travailleurs sociaux. Elle a parlé du rôle de maman. Elle a parlé des difficultés à avoir des subventions. Ça, c'était très intéressant, d'autant plus que dans la salle, on avait un sous-préfet. Ça m'a fait plaisir qu'il soit là. On avait une personne de la commission PIC qui était aussi présente. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on n'ait pas eu beaucoup d'hommes présents. On a eu surtout des femmes. Je pense que je m'y attendais, mais c'était quand même assez flagrant que plus de femmes se sont mobilisées ce soir. Et j'espère qu'à l'avenir, des hommes viendront.
Moi, ce que je trouvais aussi intéressant et important, c'est toute la déconstruction des préjugés.
Effectivement, Awa a fait un très gros travail sur la déconstruction des préjugés. Elle nous a appris énormément de choses. Je pense que je suis pas la seule ce soir. Et beaucoup de gens à la sortie du spectacle m'ont dit qu'ils ont été captivés, qu'ils n'ont pas décroché une seconde. Et c'est parce que Awa a ce pouvoir d'utiliser un langage simple, même s'il est recherché grâce à... Elle a cité pas mal d'auteurs, je t'entendais dire Maboula Soumaoro, c'est comme ça son nom. C'est super accessible au fait. Et les petits temps de pause avec la musique, le chant, les petits temps de pause où il y a des silences, les petits temps de pause où elle ramasse ses affaires sur la scène, les petits temps de pause où elle regarde le public... Il n'y a rien à dire, vive les conférences gesticulées.
Moi, j'ai vraiment aimé le fait qu'elle raconte son expérience avec son fils. ça nous a encore plus attachés au personnage, en fait, et vraiment incroyable. Les recherches aussi très pointues. Et elle les expliquait, elle avait des définitions, donc elle lisait, mais on comprenait très bien que on peut aujourd'hui revenir sur le spectacle, le raconter à notre tour, en fait, tout simplement.
Vous intervenez sur l'île métropole, c'est ça ?
On intervient à Lille, dans toute la métropole.
Si on a besoin d'informations sur votre association.
Alors, si vous avez besoin d'informations par rapport à notre association, c'est bien évidemment, dans un premier temps, nous contacter. On a un site internet www.collectifkiffkiff.
Frida, présidente de l'association Génération Elikia. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ?
Parce que la thématique me parlait de liens intergénérationnels. Et derrière l'intergénérationnel, moi, je vois également l'interculturalité, la diversité culturelle. Et ce sont des choses qui me parlent.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire qui a été racontée ?
L'histoire qui a été racontée était magnifique, puissante. Et surtout, vraiment, il y a un message de résilience derrière. Voilà, moi-même, j'ai eu un parcours d'immigré. Je suis venue en France en 2016 pour mes études. Et tout ce qu'elle disait, en fait, résonnait en moi. Vraiment, ça fait écho à mon parcours. Et c'est vraiment une très belle façon de raconter son histoire et de passer des messages forts.
Quels sont les messages que vous avez perçus ?
Alors, elle a parlé de charge raciale. Et ce que j'entends par là également, c'est le fait de ne pas forcément toujours rentrer dans les cases, de pouvoir s'affirmer et de ne pas s'identifier seulement par rapport à ce que l'autre dit, par rapport à ce que l'autre pense de nous, mais de s'identifier à ce que nous on ressent, à notre histoire, à notre parcours et à ceux qui nous ont précédés finalement.
Elle a aussi déconstruit les préjugés.
Oui, beaucoup de préjugés, préjugés raciaux notamment. Elle a parlé de micro-agressions. Voilà, ce terme me parle beaucoup parce que les micro-agressions, finalement, c'est des choses qu'on accepte au quotidien. En fait, ce sont des petites blagues faites par des collègues ou voilà, des amis qu'on a fini par accepter, mais en fait, qui ne sont pas normales. C'est des stéréotypes, des fois, qui sont ancrés. Et finalement, c'est un travail à faire, non seulement pour l'environnement qui nous entoure, donc pour ces personnes-là qui font les micro-agressions, mais aussi pour soi-même, pour ne plus les accepter, en fait. Donc, c'était vraiment, vraiment très intéressant.
Et c'était aussi, surtout ce que vous disiez, c'était d'éviter la banalisation de ces micro-agressions.
Oui, tout à fait. Éviter la banalisation et pouvoir donner une autre orientation, en fait, faire les choses différemment. Ne pas accepter tout ce qui a été fait par le passé, parce que finalement, l'immigration a toute une histoire. Awa Kamara est d'une génération, moi je suis d'une autre génération, et en plus d'être une autre génération, en fait, j'ai un autre parcours. Et finalement, puisqu'on prend conscience, puisqu'on participe à des conférences comme celle-ci, bah, il est temps, en fait, de changer. Il est temps de changer de langage, il est temps de changer de posture, en fait.
Nous étions au théâtre Pierre de Roubaix pour la conférence Gesticulée, organisée par le collectif Kif Kif. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans le ghetto, là.
Radio Campus 106,6, la radio qui ne rentrera pas là-dedans.
Oui, we are the losers, oui. But God save us and damn the queen.
Les nouveaux gangsters, pas dans les balles populaires. Où sont les nouveaux gangsters, dans les partous des ministères. J'aime les vieilles légendes où des gangsters au Borsalino font cracher leurs pétards dans des bars au coco. Mais où sont les nouveaux gangsters, les plaires des palagogos. Où sont les nouveaux gogos, les gangs des bandes à Bono. C'était le tango de ma grand-mère, le tango de mon grand-père, le bon vieux tango des gangsters, de la fumée et des revolvers. les nouveaux bandits, pas chez les folles de minuit. Où sont les nouveaux bandits? Dans les lupanards de Bercy. J'aime les vieilles histoires où l'on voit des bandits à gare fumer le cigare dans les trains et faire sauter les gares. Mais où sont les nouveaux bandits, les bandits des bars à gogo? Où sont les nouveaux dandys, les dandys des blazes à bozo? C'est le tango de ta mère, le tango de ta misère, le tango du ministère de l'économie et des finances. Car le nouveau gangster, le plus dangereux de tous, est le gangster qui s'ignore. Mercenaire de l'argent sale, brigand des ex-brigades rouges, pirate des Caraïbes à Hollywood, aigre fin, fils à papa, et grand chevalier d'industrie. À côté d'eux, Al Capone était une nonne. Et ma grand-mère, c'était Mad Alton. Les nouveaux escrocs, pas dans les fêtes des gogos. Où sont les nouveaux escrocs, là-bas dans les paradis fiscaux? J'aime les vieux coffres-forts qui valaient leur pesant d'or, que des brigands bienheureux faisaient sauter à petit feu. Mais où sont les chansons rétro des accros de la coco qui se payaient du blaireau à tout berzingue à go go go? C'est le tango des gangsters, de la finance et des ministères. C'est le tango des mercenaires, de la finance et des ministères. C'est le tango des gangsters, de la finance et des ministères. C'est le tango des mercenaires, de la grande orgie planétaire.
Qu'on dise merci.
Merci, 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 merci.
On aura encore le cafard, des gueules de bois t'es mort. Café noir, des villes qui dansent aussi dans le noir, et des gens dans la nuit au hasard. Mais qu'est-ce qu'ils nous manqueront ces moments à la. Faudra qu'on dise merci.
Merci, 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 merci.
On a dit qu'on dansera. On a dit qu'on rigolera. On a dit qu'on n'oublie pas. On a dit qu'on est là. Ce qui ne nous tue pas. Qu'on dise merci.
Merci, 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 merci.
29 au 31 août, le parc départemental d'Olin, près de Béthune, va vibrer au rythme du Bivouac Festival, un festival de musiques actuelles co-organisé par le parc, l'association Droits de Cité et le producteur lillois À Gauche de la Lune. Un rendez-vous musical différent puisqu'il se revendique éco et slow. Éco pour les engagements pris pour limiter l'impact carbone et donc les nuisances sur l'environnement. Et slow, parce qu'avec une jauge limitée à 2000 personnes et une volonté de ne pas surcharger le rythme de ce festival, c'est un rendez-vous qui aime prendre son temps. Présentation de l'événement avec Florent Decroix, directeur d'À Gauche de la Lune et l'un des co-organisateurs de ce festival.
Le festival, en fait, est co-organisé par le parc d'Olin, en fait, avec qui on travaille en étroite collaboration, et l'association Droits de Cité, qui est une association qui œuvre dans les Hauts-de-France pour le développement de la culture et l'action culturelle, y compris en milieu rural.
Alors, si on devait résumer en quelques mots l'esprit du festival, qu'est-ce qu'on peut dire ?
L'esprit du festival, en fait, c'est de bien manger, bien s'amuser, bien dormir, en passant du bon temps ensemble. En fait, l'idée de ce festival, c'est d'être un peu à rebours des festivals traditionnels, c'est-à-dire que c'est dans un cadre naturel, c'est complètement éco-conçu. On pourra y revenir un peu plus tard. Et c'est un festival où on va prendre son temps parce qu'il n'y a pas de planning démentiel et on mélange, en fait, des activités sportives, des activités de plein air, avec de la musique, de la gastronomie, et surtout, en fait, on peut dormir sur place, arriver le vendredi et repartir le dimanche, soit en formule de camping, soit dans un cabanon, soit dans une bulle, dans un arbre, ou même venir avec son van ou son camping-car.
Et c'est vrai que, outre la musique, qui est aussi un des critères hein, pour faire le choix d'un festival lorsque l'on est spectateur, il y a de plus en plus cet attachement à l'expérience autour du festival. Et là, justement, il y a plein de choses qui se passent pour faire de ce week-end du 29 au 31 août un week-end mémorable.
Tout à fait. Donc, en plus de la musique, alors il faut savoir que les groupes, alors on a quelques têtes d'affiche à notre niveau, mais c'est surtout des vrais coups de cœur live, c'est-à-dire que ce qu'on présente à Bivouac, en fait, c'est avant tout des artistes, en fait, qui sont incroyables en live, et les éditions passées, en fait, nous ont donné raison, et les gens, sans forcément connaître les artistes présentés, en fait, ont été conquis par leur performance sur scène. Mais au-delà de la musique, en fait, qui reste une des composantes, on peut bénéficier pendant Bivouac de toutes les activités du parc, c'est-à-dire que on peut aller à la piscine, on peut aller dans les filets dans les arbres, on peut faire de l'acrobranche, on peut faire de la luge. Il y a des cours de yoga qui seront organisés. Cette année, en fait, il y a même une petite nouveauté, en fait, parce qu'on a décidé de vraiment travailler sur la mobilité du public. Et on sait que le parc d'Olin, en fait, est très très mal desservi par les transports en commun. Donc cette année, en fait, on va avoir d'une part des navettes depuis la gare de Béthune, en fait, pour emmener les festivaliers jusqu'au parc, mais surtout, en fait, pour tous les gens qui viendront en vélo, on a décidé de leur offrir le camping, et surtout, en fait, on aura un atelier de réparation et réglage de vélo sur place, gratuit pour tous les gens qui viennent à Bivouac en vélo.
Le pari de ce festival est de limiter son impact carbone. Pour cela, les organisateurs travaillent avec un cabinet indépendant chargé d'évaluer les données. Si la note est déjà maximale, pourtant, les organisateurs promettent de faire encore mieux. Les explications de Florent Decroix, co-organisateur du Bivouac Festival.
On veut toujours faire mieux, si vous voulez. Alors, juste pour rire, l'année dernière, on a consommé 1 litre de gasoil sur un groupe électrogène qui s'est mis en route à 1h du matin pour éclairage de sécurité, en fait. Donc, on va essayer de faire mieux et de pas faire en sorte qu'il ne s'allume pas. Mais, en fait, le champ d'amélioration, en fait, est assez vaste, en fait, y compris sur... parce que quand on parle d'éco-festival, on a tous en tête CO2 ou consommation énergétique. Par contre, il y a tout un volet, en fait, territorial et retombé pour le territoire, en fait, qui est vraiment à travailler. C'est-à-dire que on peut toujours faire mieux sur l'emploi local, sur les fournisseurs locaux. En fait, on a choisi, nous, de restreindre notre champ d'approvisionnement à 10, voire 15 kilomètres autour du festival. Et Malheureusement, par exemple, pour les mâts hybrides qui nous servent d'éclairage de sécurité, en fait, on les a que à Lille, en fait, ces choses-là. Donc ça, c'est à améliorer, en fait. On essaie de trouver une autre solution que ces mâts. Et des solutions, il y en a avec le développement des industries de batteries sur la zone industrielle de Ruy. Je pense qu'à terme, on arrivera à se fournir en batterie là pour alimenter notre éclairage de sécurité. Ce sera pas encore cette année, ce sera sûrement l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Mais voilà, ce genre d'amélioration est toujours possible. Et après, l'amélioration continue sur l'inclusivité, le rapprochement des publics, les de la culture, etc. En fait, il est infini. Et en fait, même un A, en fait, est peut-être encore dépassé par un AAA ou un AA+.
Et puis côté local, il y a également la gastronomie, ça aussi ça fait partie des petits plus bien agréables de ce festival, parce que la restauration se veut de qualité et surtout locale.
Oui, alors la restauration est gérée par une entreprise en fait qui est basée à Bruay-la-Bissière, donc à un bon 4,5 km du site, qui était avant un estaminet, l'estaminet de la Belle au Bois en fait à Bruay-la-Bissière, pour ceux qui connaissent, en bas de la pente du Vélodrome, et donc tout est fabriqué sur place à base de produits frais, à base de produits qui sont achetés dans notre rayon de chalandise qu'on s'est imposé. Et petit truc rigolo, c'est qu'en fait, pour faire bivouac, en tout, on a 32 ampères qui viennent de la musique, qui viennent de la piscine, qui nous servent à faire les 3 scènes, le camping, la cuisine, etc. Donc en fait, on ne peut pas cuire de choses avec des fours qui consomment de l'énergie parce qu'on n'a pas assez de puissance. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont cuites au barbecue et à la broche.
Toujours dans l'optique de limiter son impact carbone, ce festival a un cahier des charges pour la programmation. Privilégier les artistes locaux, régionaux, nationaux, parfois belges, en tout cas sans jamais aller chercher des stars internationales venant faire leurs concerts en jet privé.
Oui, alors on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des artistes régionaux, belges, et on essaie de pas trop dépasser Paris. Bon, cette année, avec O2N, qui est en partie originaire de Bordeaux, en fait, on vient d'un peu plus loin. Mais en fait, voilà, c'est un cahier des charges qu'on essaye de s'imposer dans la limite d'une programmation qui nous fait plaisir aussi, quand même. Même ces petits dépassements-là, en fait, sont, on s'arrange toujours pour les compenser par autre chose, pour garder notre A. Si on a 50 cyclistes, en fait, on compense le O2N qui vient de Bordeaux.
Cette programmation se veut en tout cas éclectique. Tour d'horizon avec Florent Decroix, co-organisateur du Bivouac Festival.
Alors, vendredi, on aura Sheila, on aura Losa Pardo, François Enzi Atlas Mountain. Ça, c'est un peu mon petit coup de cœur de l'année. C'est Camille Yembe, qui est une jeune Belge aux influences pop-rap, et un avenir vraiment très prometteur et qui fait pas mal parler d'elle en ce moment pour les gens qui sont intéressés par ce type de musique. On a forcément O2N, qui est un groupe qui, correspond absolument aux valeurs du festival et qui est extraordinaire sur scène, donc on est vraiment ravis de les avoir cette année. Une autre pépite aussi qui s'appelle Martha et qui est un groupe de techno joué live avec plein d'instruments et qui est assez étonnant et qui fera bien le pont avec la scène de la piscine où on aura des DJ qui vont enchaîner de 11h à 3h du matin.
Pour le samedi, du beau monde aussi, avec notamment Malik Djoudi.
Ouais, Malik Djoudi en tête d'affiche. On ne présente plus trop Malik, mais on est ravis de l'accueillir cette année. Alors, un régional de l'étape, notre Samy de Coster et Digital Chauvage, qui sera là cette année. On est super content de l'avoir. Petit coup de cœur pour Whisper, en fait. Pareil, projet très entre chansons et pop alternative, en fait. Qui a été une musicienne de This is La Peste, qu'on a eu, c'était l'année, première année, sur Bivouac, en fait. Donc, on est content de l'avoir revenir au festival. Après, on aura iFed, qui est un projet un peu funk, disco, rock, qui est hyper fort en live. Blasé, qui est un producteur franco-américain, plutôt dans une ambiance électro, en fait, qui sort son premier album là cette année. Et nous étions une armée, en fait, duo, influence pop-rock, post-rock, donc un peu de guitare sous les arbres, ça fera du bien. Le dimanche, en fait, Canapé Mix et Groupe des Familles, en fait, sont les deux collectifs, en fait, qui opèrent sur la scène de la piscine, qui cette année, en fait, va être ouverte un peu plus, de façon un peu plus extensive, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir plus tôt dans l'après-midi, et il y aura un tournoi de pétanque, en fait, des jeux, des choses comme ça qui vont se dérouler au bord de la piscine en musique avec le groupe des familles. Et ensuite, ils font la boîte de nuit du camping, en fait, de 23h à 3h du matin, en fait, sur la scène de la caravane. Donc voilà, et sur le dimanche en fait on a décidé de d'y aller vraiment en pente douce, c'est-à-dire que on a remarqué que les gens se levaient très tard, etc., ils voulaient quand même repartir tôt. Donc cette année, en fait, on va organiser des choses qui seront plus des animations. Donc on aura un bingo, on va renouveler l'opération menu anti-gaspi, c'est-à-dire que un peu comme au mariage on fait un rebond, et ben on va finir les restes du festival, je parle de la nourriture, pour un menu anti-gaspi à 5€. Et l'année dernière, en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on a des bonnes notes et qu'on s'améliore régulièrement, c'est que on a fini avec aucun reste, donc on n'a rien jeté, absolument rien, sur Bivouac l'année dernière en termes de nourriture.
Alors pour terminer, Florent, que dire à ceux qui nous écoutent pour les convaincre de venir au Bivouac Festival au parc départemental de l'Ain du 29 au 31 août ?
Que ça va être super, en fait, mais vraiment, en fait, pour organiser énormément de concerts à l'année, etc., même pour nous, à Gauche de la Lune, en fait, Bivouac est vraiment un moment très privilégié, en fait, où même si on organise, on se détend, on prend son temps, on passe des très bons moments, et surtout, on rencontre des gens, on a le temps de discuter avec le public a le temps de discuter avec les artistes. En fait, il se passe plein de choses dans le microcosme Bivouac, qui fait que au-delà de la musique, de tout ce qu'on va y trouver, en fait, c'est un vrai moment de partage, une espèce de moment suspendu, en fait, où on prend le temps de rencontrer les gens dans la nature.
Le Bivouac Festival, c'est donc au parc départemental d'Olin du 29 au 31 août. Les billets sont de 27€ par jour de concert, 52€ pour le pass week-end. Billetterie, programmation et toutes les infos utiles sur le site internet www.bivouacfestival.com. Un sujet réalisé par Julien Maille pour Radio Plus.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Yeah. C'est pas la joie dans les villages. La France profonde est entortée. Les métropoles sont dans le cirage. Nous citoyens, on est paumés. Dans la verdure de nos campagnes viennent s'écouler les saloperies. Le résultat d'une campagne tout au profit des industries. Heureusement, il y a la météo qui nous dit qu'il fait chaud. On va pouvoir se mettre en maillot du côté de Saint-Malo. Dans les villes, ça pue tellement qu'on ne peut plus imaginer sortir les mômes en respirant autre chose que de l'air pollué. Dans les oreilles, un bruit de fond. Devant les yeux, un voile de brume. Sur la langue, un goût de goudron. Y a pas que le tabac qui en fume. Heureusement, y a la météo qui nous dit qu'il fait chaud. On va pouvoir se mettre en maillot du côté de Saint-Malo. Dans les rivières, les poissons apprennent maintenant à faire la planche. Il n'y a plus rien qui sent bon au cours des promenades du dimanche. Les vaches au cœur, les prés sont folles et leurs veaux ne sont plus de lait. Les poules en hache, elles rigolent en faisant des œufs de moins en moins vrais. Heureusement, y a la météo qui nous dit qu'il fait chaud. On va pouvoir se mettre en maillot du côté de Saint-Malo. La manipulation des gènes nous fera crever du maïs. Les cochons grossissent à la chaîne, attendent blaser l'heure du supplice. Plus moyen de courir tranquille, faut s'attendre à ce que la nature, à la campagne comme à la ville, n'ait plus un droit de cité pure. Heureusement, y a la météo qui nous dit qu'il fait chaud. On va pouvoir se mettre en maillot du côté de Saint-Malo. Je voudrais pas dire, mais je dis quand même, faudrait enrayer la spirale des trop pleins de production qui ne sèment que les calamités sociales. Alors messieurs les profiteurs, dégonflez donc vos portefeuilles, mettez-y un peu plus de cœur, ne faites pas de la terre un cercueil. La météo vous a dit qu'il faisait chaud, vous allez pouvoir vous mettre en maillot du côté de Saint-Malo. Heureusement, il y a la météo qui nous dit qu'il fait chaud. On va pouvoir se mettre en maillot du côté de Saint-Malo.
En décembre 1943. Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. Vous connaissez la chanson en français. Ô Tannenbaum, ô Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
Lili Keller-Rosenberg, déportée à 11 ans, survivante des camps de Rosenbruck et de Bergen-Belsen, témoigne dans les collèges de la région des Hauts-de-France. Au-delà de sa propre histoire, Lili Keller-Rosenberg met en lumière les persécutions subies par les enfants juifs et ziganes du Nord et du Pas-de-Calais. Bruno Lobert l'a rencontré le 6 juin 2025 au collège Robert Le Frisson de Cassel.
Madame Keller-Rosenberg, bonjour, enchanté de vous connaître.
Moi de même, monsieur.
Vous avez malheureusement été arrêté à l'âge de 11 ans pour partir en déportation. Et là, aujourd'hui, à Cassel, vous nous avez donné un témoignage d'une tristesse à mourir, mais exceptionnelle.
Je tiens à témoigner sans fin, vous voyez. Nous ne sommes plus très nombreux, les déportés. Nous ne sommes plus qu'une poignée. Mais c'est tellement indispensable parce que les jeunes ont des cours d'histoire sur cette période. Ils en savent déjà beaucoup. Mais lorsqu'ils entendent un témoin, une personne qui a vécu cette période, eh bien, vraiment, ils sont heureux et ça leur apporte un plus, un grand plus.
À cette mauvaise époque, il y a un fichage des Juifs. On les empêche d'aller au cinéma, on les empêche d'aller à la piscine. On les affuble même d'une étoile de Judée.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce qui me fait la plus grande peine. Comment peut-on reproduire de telles horreurs? Comment? Vous voyez, je me demande ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Pourquoi le mal faut-il toujours qu'il revienne? Mais cependant, je ne perds pas courage. Vous voyez, on pourrait baisser les bras et être attristé au point de ne plus pouvoir en parler. C'est l'inverse qui se pose pour moi. Plus j'entends parler de mal, de honte, d'antisémitisme, plus j'ai envie de rencontrer encore un plus grand nombre d'élèves pour qu'ils sachent ce qui s'est réellement passé pendant cette période, pendant cette haine des Juifs. Hitler avait décidé de détruire les Juifs de toute l'Europe.
C'est ce qu'il appelait la solution finale, d'ailleurs.
La solution finale, qui s'appelait. Et nous y avons échappé de peu. Et lorsque les élèves me posent la question, comment j'explique que j'ai pu en réchapper.
C'est digne du miracle, on serait tenté de dire.
Exactement. Pourtant, je ne suis pas croyante, vous voyez, mais je dis, c'est miraculeux d'être rentré, malgré tout, en mauvais état. On nous a soignés, mais nous sommes là. Et je dis aux élèves, voilà, c'est un défi pour les nazis. Ils voulaient m'abattre, ainsi que ma famille. Nous sommes là, voilà. Ça prouve qu'ils n'ont pas 100% réussi et que maintenant je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour expliquer, pour éviter que ça ne revienne, pour que les jeunes comprennent.
Le 27 octobre 1943, c'est une date toute particulière.
Toute particulière. Bien sûr, nous avons été arrêtés relativement tôt parce que beaucoup de déportés que je connais ont été déportés à partir de 1944. Nous, en 1943 déjà, c'était, figurez-vous, le jour anniversaire de maman. Quelle triste coïncidence.
C'est quelque chose qui touche en plein cœur.
C'est certain. D'ailleurs, les élèves, je ne veux jamais faire pleurer quand je témoigne. C'est un sujet triste, mais je veux surtout qu'ils retiennent. Je ne témoigne pas pour faire pleurer, mais ils sont sensibles. Et parfois, j'aperçois une larme au bord de leurs paupières lorsque je parle également d'un tout petit frère de 3 ans et demi, vous voyez, à l'époque. Comment a-t-il survécu? Avec l'amour, bien sûr, de maman, mais maman, dans la journée, travaillait, était à l'arbeit, et j'étais la seconde petite maman, je m'occupais de mes frères, et tout spécialement de André.
On s'aperçoit que dans ces camps de concentration, il y avait des façons de vivre difficiles, il y avait des virus, on mangeait pas, on avait froid.
Ces camps étaient ignobles. Tous les déportés l'ont dit au retour. Nous crevions de faim, je vous assure. Nous crevions de froid également, parce que nous n'avions aucun pull, rien pour nous protéger. Mais nous, les enfants, et je parle surtout pour moi, pour mes frères, nous avions si peur. Pendant 2 années, je vous assure, dans les camps, nous vivions comme des ombres, n'osant nous montrer, nous apercevions de la brutalité de ces SS qui nous entouraient, de leurs chiens menaçants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. C'est ce que, 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Vous voyez, je n'ose m'en approcher. J'ai donc réellement été marqué par cela. Et comme nous avions si peur, nous restions enfermés la journée entière, comme des ombres. Nous n'osions nous montrer que le soir, au retour de maman.
On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim. On pleure, car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés.
Nous retrouvons Bruno Lobert et Lélie Keller-Rosenberg, déportées à 11 ans, survivantes des camps de Rosenbruck et de Bergen-Belsen.
On vient de fêter les 80 ans de l'Holocauste, de la déportation. C'est pas compliqué de se rendre sur ces lieux de barbarie?
C'est un sujet toujours très pénible que certains n'ont jamais pu évoquer. Je connais des déportés, c'était au-dessus de leurs forces et disaient « on ne peut pas en parler ». Cependant, ceux qui le font, c'est indispensable, bien sûr. C'est dur, mais c'est tellement nécessaire que ça donne la force de tenir et d'en parler coûte que coûte et à l'infini.
Vous avez envie d'ouvrir une maison à Roubaix pour avoir une maison de la mémoire?
C'est pas une maison, monsieur, c'est ma maison. C'est
encore là, mieux.
C'est là où nous habitions à Roubaix avant la déportation. Et figurez-vous qu'il y a 2 ans, oui, à peu près 2 ans, nous avons appris que cette maison était à vendre. La nouvelle propriétaire voulait la vendre. Et donc, tout de suite, l'idée a germé dans mon esprit, dans celui de ma fille également, d'en faire une maison mémorielle. Vous savez, il y a des maisons en France, heureusement, et des associations où l'on parle de la déportation en général, surtout la déportation des adultes. Mais là, ce serait la maison de la déportation spécifique des enfants. Les enfants juifs et tziganes.
Vous avez un certain âge, et vous êtes d'ailleurs très bien. C'est ce qui vous motive, votre devoir de mémoire, de rester aussi belle et aussi jeune.
Là, vous êtes trop aimable. Aussi
non, je suis réaliste.
Vous savez, oui, je pense que c'est cette passion de témoignage, cette envie de transmission qui me tient, qui me fait tenir debout encore. Et comme je veux toujours être relativement coquette pour que les jeunes disent...
Avec votre rouge à lèvres, hein, vous avez insisté.
Ah, le rouge à lèvres est indispensable. Je témoigne toujours, vous savez, monsieur, je suis la seule déportée qui témoigne debout pendant 2 heures avec beaucoup de rouge à lèvres et bien mise de sa personne. C'est indispensable.
Je crois qu'on peut remercier aussi le corps enseignant et proviseur du collège de Wormhout et de Cassel pour l'organisation de ce moment de témoignage, de mémoire.
C'est certain. C'est grâce à ces principaux de collège, grâce ici à Wormhout et à Cassel aussi, c'est Cassel qui a organisé, je trouve que c'est magnifique et je remercie toujours ces personnalités-là parce que c'est grâce à eux qu'il y a un grand nombre d'élèves à chaque fois qui viennent écouter le témoignage. Et aujourd'hui, où nous étions si nombreux, et tous ces enfants, vous savez, les enseignants me disent parfois, on a du mal à tenir ces jeunes tranquilles, une demi-heure, trois quarts d'heure, ces jeunes, c'est plein de vie. Mais là, quand ils écoutent, pas un bronche, pas de bavardage, pas de bruit, les professeurs eux-mêmes en sont étonnés.
Il va falloir que vous veniez plus souvent dans les collèges.
Ben écoutez, jamais je ne refuse, sauf maladie, bien entendu. J'ai été très malade en 2024 pendant quelques temps, mais dès que ça allait un tout petit peu mieux, j'ai repris ma mission.
Merci de m'avoir accordé cet entretien, j'y tenais vraiment. Heureusement qu'il existe des gens comme vous pour nous parler du passé, pour aller vers un meilleur futur.
Merci à vous, monsieur. Grâce à vous, grâce à vos écrits, tout le monde saura que jamais il ne faut oublier et que nos jeunes sont là pour reprendre le flambeau. J'ai foi, j'ai confiance en eux et je veux qu'un jour la paix vienne dans le monde. Je dis bien, c'est pas pour tout de suite,
ça va arriver.
Pas le chemin. On verra bien. Mais avec tous ces jeunes réunis de toute l'Europe, c'est quelque chose d'exceptionnel.
C'est bon signe.
C'est bon signe et ça arrivera.
Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée.
Merci à vous également. Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Déporté à 11 ans avec ses deux jeunes frères, Lily Keller-Rosenberg est l'une des rares survivantes enfantines françaises à être revenue avec sa fratrie. Marquée par l'horreur des camps de Rosenbruck et de Birkenau-Belsen, elle consacre sa vie à raconter son histoire pour que l'oubli ne triomphe jamais. Cet entretien a été réalisé par Bruno Lobert. Montage, Koulibaly Daouda pour Radio UI Lanspiel.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
SS qui vient nous voir chaque soir. SS, à quel rasoir, à cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux.
Radio Campus Lille, Radio Libre, 106,6, ou aussi campuslille.com.
Bon.
Bababoum, tournicoté, tournicotant.
J'essaie encore de t'oublier, je sais bien que c'est le moment de l'année où tu reviens précisément reprendre mon corps et mes pensées. Je te cherche par ici, je nous revois par là. À chaque fois, on remet ça ici et là. Et oh, sors de moi, laisse-moi vivre, rentre chez toi et restons-en là. Et oh, reviens vite, chatouiller le ciel gris et mes sombres pensées. Je passe à l'heure d'hiver, ça change mon caractère. Je sens le vent derrière, je la sens dans l'air. Je suis absent, c'est sûrement vrai. J'ai débranché de la vie courante. J'écris ces mots pour ne pas te perdre avec le temps. Tout fout le camp et j'essaie de me raccrocher. Je préférerais t'oublier. En même temps, je l'aime vraiment, ce moment troublant. Je passe à l'heure d'hiver, ça change mon caractère. Je sens le vent derrière, je la sens dans l'air. D'un point de vue fascinant, quand je repense à toi, t'amènes du swing dans mes tympans.
Du swing dans mes tympans.
D'un point de vue réjouissant, le swing que tu ramènes, il est en moi pendant longtemps. Je passe à l'heure d'hiver, il y a du swing dans l'air. Je sens le vent derrière, je la sens dans l'air. Êtes-vous prêts pour l'heure d'hiver? Êtes-vous prêts pour l'heure d'hiver? Je passe à l'heure d'hiver, il y a du swing dans l'air. Je sens le vent derrière, je la sens dans l'air.
Avec Hélène, dans un café on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain je lui téléphone, elle me dit que tout est fini.
Oh les filles, oh les filles,
avec Monique au cinéma on est allé, et au moment le plus tragique elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier.
Oh les filles, oh les filles, elle me rend le marteau. Oh les filles, oh les filles, moi je les aime trop.
Thank you. avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Dans le métro, on s'est rencontrés. Il habite tout près de Sarcelles. Alors je l'ai accompagné. Arrivé devant son HLM, il me dit j'aime pas les PD.
Oh les filles, oh les filles.
Avec Karine, elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine. Et j'aime ses beaux yeux étonnés. J'aimerai toute ma vie Karine. Et rien ne pourra m'en empêcher.
Qui c'est qui a dit de s'arrêter?
Oh, cette fille! Oh, cette fille!